Et donc, c'est une joie d'ouvrir le psaume 39 avec vous et de voir ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de ce psaume. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de prier. Donc, prions ensemble. Notre Dieu, merci pour ta parole qui est précieuse, plus précieuse que l'or. Merci pour ta parole qui est une sûre fondation. Et on prie que ce soit encore le cas dans ce temps qu'on a ensemble, que tu puisses parler à nos faibles cœurs, que tu puisses nous révéler davantage de la fragilité de notre vie et de la nécessité de se confier en toi, qui est le rocher des âges, qui ne change pas, qui a aucune variation, qui est bon, qui est juste, qui est aimant. Montre-nous davantage de ta gloire et sois avec moi dans ma faiblesse pour m'aider à exposer ce psaume d'une manière qui t'honore et qui te glorifie. Et on prie ceci dans le nom de Jésus. Amen. Je crois en Jésus pas parce que c'est facile, mais parce que c'est vrai. La personne qui a dit ça, c'est Johnny Erickson. Peut-être que vous connaissez Johnny Erickson. Elle est tétraplégique depuis l'âge de ses 17 ans. Depuis l'âge de 17 ans, dans un accident, un mauvais plongeon, elle est devenue tétraplégique, incapable d'utiliser ses bras, ses jambes, de marcher pour tout le reste de sa vie. On ne peut pas imaginer la peine que ça a dû être de voir sa vie être bouleversée comme ça du jour au lendemain. Mais malgré tout, elle est restée accrochée au Seigneur, elle est restée fidèle, elle est restée confiante. Et elle a dit ceci: je crois en Jésus pas parce que c'est facile, mais parce que c'est vrai. Les chrétiens qui souffrent et qui restent fidèles au Seigneur, ils ont beaucoup à nous apprendre. Un autre exemple, c'est John Bunyan qui a vécu au XVIIe siècle. Il est connu pour avoir écrit Le Voyage du Pèlerin. Il a perdu son épouse alors qu'il avait quatre enfants. Il s'est remarié ensuite avec Élisabeth. Et un an plus tard, après s'être remarié, alors qu'Élisabeth était enceinte, il a été arrêté et il a été mis en prison parce qu'il prêchait l'évangile. Et il restera pendant 12 ans en prison. On lui disait qu'il pouvait sortir si seulement il l'arrêtait. Il acceptait de renoncer à prêcher l'évangile. Et alors qu'on lui demandait s'il se rétractait, il a répondu ceci: j'ai décidé, le Dieu Tout-Puissant étant mon aide et mon bouclier, de souffrir encore, si ma vie frêle venait à continuer si longtemps, même jusqu'à ce que de la mousse pousse sur mes sourcils, plutôt que de violer ainsi ma foi et mes principes. Les chrétiens qui souffrent en restant fidèles au Seigneur ont beaucoup, beaucoup à nous apprendre. À nous apprendre pour nous dans nos souffrances que l'on vit maintenant ou dans les souffrances que l'on va traverser. Parce qu'on a besoin d'apprendre dans ce domaine. Il n'y a pas de cours à l'école pour nous préparer à bien souffrir. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous, en ce moment même, vous passez par des moments difficiles, des souffrances. Souffrances physiques, souffrances émotionnelles, souffrances familiales. Souffrances liées au travail, incertitudes liées à l'avenir, lutte avec un péché récurrent, rejet de la part de certains de vos amis, ou alors une souffrance que personne ne voit mais que vous devez porter seul, jour après jour, dans la solitude du quotidien. On va regarder ensemble le psaume 39 ce matin qui va nous apprendre à bien souffrir, à réagir à la souffrance de la bonne manière, parce qu'il faut reconnaître que dans la souffrance, humainement, on a tendance à tout remettre en cause. Et ce psaume va nous montrer que oui, certaines choses doivent être remises en cause et d'autres ne doivent pas l'être. La souffrance est une occasion de nous remettre en cause, oui, personnellement, et de réfléchir à la fragilité de notre vie. Mais ça ne devrait pas être une occasion de remettre en cause qui est Dieu et d'arrêter d'espérer en Dieu. Certains psaumes sont remplis de joie et de délivrance, ils sont pleins de couleurs, pleins de vie. Mais le psaume 39 est assez différent. C'est une réflexion sobre sur le caractère de la vie, sur la souffrance, sur la fragilité de l'être humain. Il est question également d'espérer en Dieu, on va le voir, mais dans un contexte beaucoup plus sombre que ce qu'on a eu l'occasion de voir jusqu'ici. David, c'est l'auteur de ce psaume, on l'apprend avec le verset 1, et on rentre dans la vie de David alors qu'il souffre. Au verset 3, il dit que sa douleur est extrême. Au verset 12, on apprend qu'il est corrigé par Dieu. On apprend au verset 13 qu'il est même en pleurs. Psaume 39, c'est un peu le jumeau du psaume précédent, le psaume 38, où il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Dans les deux psaumes, David souffre, il est châtié par Dieu, il reconnaît ses fautes. Dans les deux psaumes, et en particulier dans le psaume 38, il est question de méchants qui prospèrent, alors que lui, David, il est dans la douleur. On voit au psaume 38, le verset 20: mes ennemis sont pleins de vie, de force, ceux qui me haïssent à tort sont nombreux. David souffre de voir les méchants qui ont une belle vie après tout. Et dans ces deux psaumes, il y a un mélange entre la souffrance liée au péché de David, la souffrance liée au châtiment de Dieu, la souffrance liée aux ennemis de David et la souffrance liée au fait de vivre dans un monde marqué par la chute. Et c'est un peu difficile de distinguer entre le psaume 38 et le psaume 39 ce qui fait référence à quel type de souffrance. Mais c'est ça le monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Un monde profondément marqué par la chute et par le péché de l'être humain. Un monde qui n'est plus comme il était. Un monde où l'odeur de la souffrance et l'odeur du péché sont mélangées et sont présents à chaque endroit. Et dans un sens, ce psaume 39, il s'adresse à ceux qui vivent dans un monde comme celui où David vivait. Un monde marqué par la souffrance et par le péché humain. Ça, c'est notre monde, n'est-ce pas? Et la question de ce psaume, c'est comment réagir à nos perplexités dans la souffrance? Quelle perspective adopter face à la souffrance que nous traversons dans ce monde? On voit dans ce psaume que David a traversé une affliction qui l'a amené à avoir une bonne attitude concernant Dieu et concernant la fragilité de sa vie. Et je vous propose donc d'apprendre à partir de ce psaume quatre leçons d'un homme qui passe par la souffrance, quatre leçons d'un homme qui passe par la souffrance, des leçons dont on peut chacun de nous apprendre. Première leçon d'un homme qui passe par la souffrance, ne déshonorons pas Dieu, ne déshonorons pas Dieu. On a dit que David était entouré de méchants, il est entouré de gens qui ne craignent pas Dieu, qui vivent une bonne vie, et face à ça, David est perplexe parce que lui, il souffre, et il souffre terriblement. Il ne comprend pas sa peine et il est conscient du danger de déshonorer Dieu dans cette situation par ses paroles. Regarde avec moi le verset 2. Je disais, je garderai mes voix de peur de pécher par ma langue, je garderai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Il voudrait parler, il voudrait exprimer ses perplexités, mais il se retient, parce qu'il craint de pécher par sa langue en attribuant à Dieu des choses inappropriées. Et cela encore plus devant des gens qui ne craignent pas Dieu. Il est conscient du danger de protester devant Dieu, de mettre Dieu sur le banc des accusés. Il ne fait pas preuve d'arrogance dans ces versets, au contraire, il ne veut pas pécher, il ne veut pas protester, même si son cœur brûle au fond de lui. Et c'est vrai qu'on peut être perplexe face à la souffrance dans ce monde, ou face à certaines choses de nos vies qu'on n'arrive pas à comprendre. Et on est rapide à protester, n'est-ce pas? S'il y a un problème, c'est Dieu qui doit être responsable. On est rapide à mettre Dieu au banc des accusés d'une certaine manière, comme s'il devait se défendre et expliquer les bonnes raisons qu'il a de permettre ce qu'il permet dans nos vies, de nous faire passer par ce que l'on traverse. Mais ce n'est pas l'attitude de David ici. Et ce n'est pas l'attitude qu'un croyant devrait avoir. Parce que faire cela, ce ne serait pas avoir une juste attitude vis-à-vis de Dieu. Ne péchons ni par notre langue, ni par notre pensée, en remettant en cause ce que nous savons de Dieu, qui est souverain, qui est bon, qui est juste, qui est aimant. Et peut-être ça vaut le coup de se poser la question, comment est-ce que nous sommes devant les non-croyants, que ce soit au travail, dans la famille, avec nos amis? Est-ce qu'ils nous voient toujours en train de nous plaindre de notre vie, de notre situation, de la météo, de l'actualité? Comme si, après tout, Dieu n'était pas au contrôle, où Dieu n'était pas bon, où Dieu faisait des erreurs, où Dieu ne prenait pas soin de nous, où Dieu n'était pas digne d'être adoré. Qu'est-ce qu'ils entendent de notre bouche? Qu'est-ce qu'ils perçoivent de notre manière de vivre? Face à la souffrance, il y a le danger de déshonorer Dieu en remettant en cause ce que nous savons de lui. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire, on y reviendra, parce que même dans la souffrance, on peut se confier dans le caractère de Dieu qui n'a pas changé. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit garder le silence dans la souffrance, résoudre à subir ce que l'on vit, sans possibilité de s'exprimer? C'est vrai qu'ici, au verset 3, David reste muet parce qu'il ne veut pas pécher, mais il va finir par parler. Et quand il va prendre la parole, finalement, comme on le voit dans les versets 4 et suivants, ce sera pour s'adresser à Dieu. Et là encore, il montre une bonne attitude vis-à-vis de Dieu. Il fait connaître à Dieu ses perplexités en demandant à Dieu de l'enseigner sur la fragilité de sa vie. On va revenir sur ça dans un instant, mais ça nous permet déjà de dire qu'il est légitime de faire ça, de présenter nos interrogations à Dieu. Quand on traverse des situations difficiles, quand on a des choses qui pèsent sur notre cœur, lorsque l'on vit dans la souffrance, notre premier réflexe, ça doit être de parler, oui, mais parler à Dieu, de parler à Dieu. On peut faire comme on voit dans le psaume 62, dépencher notre cœur devant lui, devant Dieu. Et c'est aussi ce qu'on apprend avec le Nouveau Testament. On a eu l'occasion de voir ça en étudiant 1 Pierre. 1 Pierre 5, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Deuxième leçon d'un homme qui traverse la souffrance, qui passe par la souffrance, réalisons la fragilité de la vie. Réalisons la fragilité de la vie, notre deuxième point. Deuxième leçon d'un homme qui traverse la souffrance. Quand David prie dans les versets 5 et suivants, il s'adresse à Dieu pour que Dieu lui montre combien il est peu de choses. Regardez avec moi le verset 5. Éternel, fais-moi connaître ma fin, quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. David avait probablement encore plusieurs années à vivre, mais ici il dit, fais-moi connaître quelle est la mesure de mes jours, pas de mes années. Même si ça paraît plusieurs années d'un point de vue humain, quand on prend du recul, on réalise que c'est que l'affaire de quelques jours qui passe bien vite. Regardez aussi avec moi le verset 6. David dit ceci, « Voici que tu as donné à mes jours la largeur de la main, et la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » La durée de la vie humaine n'est rien devant Dieu. Lui, il est éternel, il existe de l'éternité passée à l'éternité future. Il n'a ni commencement ni fin, et sur l'échelle de l'éternité, notre existence humaine terrestre n'est que la largeur d'une main, une goutte d'eau au milieu de l'océan. Ça ne représente rien. À la fin du verset 6, David déclare avec beaucoup de sagesse « Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Cette idée, elle revient trois fois dans ce psaume, au verset 6, au verset 7 et au verset 12. C'est un mot qu'on connaît parce qu'il est utilisé dans l'Ecclésiaste aussi pour parler de la vanité, du caractère éphémère de la vie. Et c'est une image qui nous parle. Quand il fait froid dehors en hiver et qu'on souffle, qu'on respire, il y a de la vapeur qui sort de notre bouche, il y a de la fumée, mais ça ne dure que quelques secondes, ça part en fumée et on ne peut pas l'attraper. C'est éphémère, ça passe vite. Et c'est comme ça que sont nos vies. Quand on est jeune, on pense souvent que notre jeunesse est éternelle, qu'on est invincible, on a plein d'énergie, plein de force, on est dans la fleur de l'âge. Il y a l'océan des possibilités qui est ouvert face à nous. Mais même la jeunesse passe comme une vapeur. J'aime toujours parler avec des personnes plus âgées que moi qui me racontent, qui me parlent de leur jeunesse. Parce que ça me rappelle qu'un jour, moi aussi je serai à leur place en train de parler de ma jeunesse dans le passé. La vie humaine est bien éphémère. L'être humain est si fragile. Il est peu de choses. Et c'est quand nous souffrons ou quand nous passons par des moments difficiles, de perplexité comme David, que nous réalisons cela. Parce que sinon, nos vies vont à 100 à l'heure. Tout va bien. Nous sommes au contrôle. On maîtrise notre agenda, on maîtrise les projets de notre vie, on maîtrise notre santé. Mais quand quelque chose nous est ôté, ou alors quand tout ne fonctionne pas comme on avait prévu, c'est là qu'on réalise qu'on n'est pas au contrôle. C'est là qu'on réalise que nos vies tiennent à peu de choses. Je pense que c'est une des grandes leçons de la situation actuelle. Presque du jour au lendemain, littéralement, il y a eu un coup de gomme qui a été passé sur notre agenda, sur nos projets, sur nos plans. On a vu la fragilité de la vie humaine, son incapacité à être maître des choses, à être au contrôle face à un petit virus qui bouleverse le monde, qui bouleverse les nations. Tous confinés, nos projets annulés, notre quotidien bouleversé. Une des choses que je trouve le plus difficile en ce moment, c'est l'impossibilité de se projeter dans l'avenir, de planifier des choses. J'aime organiser, j'aime planifier, j'aime savoir que tout est en ordre, que tout est OK dans mon agenda, dans mon avenir, mais c'est juste impossible en ce moment. Et c'est un bon rappel de notre fragilité. C'est un bon rappel de qui nous sommes. Et donc on peut prendre le confinement et la situation actuelle comme une occasion de réfléchir à notre fragilité, de réfléchir au caractère éphémère de la vie. Pour quel but est-ce que je suis sur Terre, si la vie est si courte? Ou investir mon temps au mieux si celui-ci va partir comme une vapeur? On peut méditer sur des versets comme Jacques 4, dans les versets 13 à 15, où il est dit ceci, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Mais la situation qu'on vit nous montre aussi que la vie ne tient pas à grand-chose. C'est difficile de parler de la mort dans notre société aujourd'hui, c'est pas un sujet naturel qu'on va aborder quand on a une soirée avec des amis. Mais avec cette pandémie mondiale, la mort se rapproche de notre quotidien. Et chaque jour, on a un nombre de morts liés au coronavirus qui tombe et qui nous rappelle que la mort est plus proche qu'on ne le pense et qu'on aurait pu en faire partie. J'avais lu cette citation un jour, je ne me rappelle plus de qui c'est. C'est quelqu'un qui disait ceci: tous vont mourir un jour et pourtant tous vivent comme s'ils devaient vivre toujours. Tous vont mourir un jour et pourtant tous vivent comme s'ils devaient vivre toujours. Réfléchir à la mort, c'est quelque chose de sobre, mais de bénéfique, parce que ça nous aide à réaliser, comme David le dit ici, que nous ne sommes qu'une vapeur. Qu'est-ce qui va rester de tant de peine, de tant de travail, de tant d'investissement dans les choses de ce monde? Penser à la mort, à notre mort, ça nous encourage donc à avoir la bonne perspective, et à pas vivre pour ce monde-là, mais à vivre pour le monde à venir. Alors est-ce que le psaume 39, c'est un psaume pour nous faire déprimer en nous réalisant que nous ne sommes qu'une vapeur, que notre temps part en fumée, qu'on n'a pas d'espoir? Ben non, parce qu'il est question dans ce psaume pour David d'espérer en Dieu. Et ça nous amène à notre troisième point, notre troisième leçon dans la souffrance: espérons toujours en Dieu. Espérons toujours en Dieu. Si la souffrance, ça doit être une occasion d'apprendre sur la fragilité de notre vie et une occasion de nous remettre en question personnellement, comme on va le voir juste après, ça ne doit pas être une occasion pourtant de remettre en question ce que nous savons de Dieu, ou une occasion d'arrêter d'espérer en Dieu. Bien au contraire. Et c'est ça la note de joie qu'il y a au milieu de ce psaume qui est assez sombre. La douleur de David est extrême. Il est dans une grande peine, il fait face à la discipline de Dieu, on va le voir, il crie à Dieu pour la délivrance, il reconnaît la fragilité de sa vie, il reconnaît qu'il n'est pas grand-chose, mais dans tout ça, il y a le verset 8, qui est comme solidement ancré au milieu de ce psaume. Regardez avec moi le verset 8. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon attente. C'est comme si David était dans une voie sans issue, dans une impasse avec la souffrance qui se fait toujours plus grande. Mais dans cette impasse, il y a une lueur d'espoir, espérer en Dieu. Et ce n'est pas juste une petite lueur d'espoir incertaine, mais c'est une réalité de poids à laquelle David s'accroche. C'est comme un rocher au milieu de la tempête, comme une forteresse au milieu d'une grande bataille. David connaît son Dieu et David connaît le caractère de son Dieu. Il y a un commentateur qui écrit ceci à propos de ces versets. Voici le caractère héroïque de la foi, qui, au milieu des énigmes de la vie et ayant pleine conscience de l'obscurité profonde qui entoure l'avenir, se jette inconditionnellement dans les bras de Dieu. Voilà la foi de David, voilà l'espérance de David. Et si David ne déshonore pas Dieu, comme on l'a vu, il ne remet pas en cause non plus ce qu'il sait de Dieu, son caractère qui n'a pas changé, même dans la souffrance. Quand on passe par des moments difficiles, on a naturellement envie de remettre en question tout ce que l'on sait de Dieu, tout ce que l'on sait des vérités de l'Évangile. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Le caractère de Dieu n'a pas changé. Les vérités de l'Évangile n'ont pas changé. Et on peut toujours s'y confier. Il y a quelques semaines, quand on regardait le psaume 23, je vous parlais de Charles Spurgeon, le prédicateur anglais du 19e siècle, qui a passé par pas mal de moments difficiles dans sa vie, des moments de souffrance, et je suis tombé récemment sur une autre citation de lui où il dit ceci: Dieu est trop bon pour être méchant, et il est trop sage pour se tromper. Et quand nous ne comprenons pas ce que fait sa main, nous devons faire confiance à son cœur. Quand nous ne comprenons pas ce que fait sa main, nous devons faire confiance à son cœur. Bien sûr, ce n'est pas pour dire que sa main et son cœur agiraient en contradiction ou ne seraient pas d'accord, et d'ailleurs, Dieu n'a pas de main ni de cœur, c'est simplement des images. Comme on le voit dans ce psaume d'ailleurs, où il est parlé de la main de Dieu au verset 11, des images pour parler de qui Dieu est. Mais l'idée, c'est de dire qu'on veut se confier dans le caractère de Dieu, même si on ne comprend pas pourquoi Dieu agit comme il agit en ce moment. Même si on ne comprend pas ce que Dieu fait. On veut espérer en lui, on veut s'attendre à lui, comme David. Et en tant que chrétien, on veut se souvenir surtout que sa bonté s'est manifestée de la manière la plus grande à la croix, quand Jésus est mort à notre place. C'est là où la compassion, la grâce, l'amour de Dieu ont atteint leur apogée, quand le juste est mort pour des injustes. C'est ça qui fonde notre espérance, qui fait que ce n'est pas juste quelque chose qu'on espère en vain. Non, on sait que Dieu est bon et qu'il l'a démontré. Et que même face à la perplexité, c'est à la croix que se trouve la résolution de tous nos problèmes. Et on voit d'ailleurs pour David que le fait que ce soit Dieu qui le châtie ne l'empêche pas de prier pour la délivrance. C'est intéressant de remarquer ça. David reconnaît que c'est Dieu qui envoie son épreuve, on va le voir dans un instant, qu'il est souverain là-dessus, et pourtant il prie. Et ça, ce n'est pas contradictoire. En fait, c'est même parce qu'il est conscient que ça vient de Dieu qu'il veut prier Dieu de l'en délivrer. Si on affirme que Dieu est souverain, c'est jamais pour dire qu'on ne peut pas prier pour ce pourquoi Dieu est souverain. Au contraire, on croit que Dieu est souverain sur tout ce que l'on vit, sur nos épreuves, sur nos souffrances de notre vie, et y compris sur le coronavirus. Mais on peut néanmoins prier pour que ces choses cessent, légitimement, et on est appelé à le faire. Comme nous le montre ce psaume, la souveraineté de Dieu bien comprise n'amène pas à la passivité ou au fatalisme, mais au contraire, à la prière confiante en Dieu, qui justement est souverain. Mais il faut aussi dire que dans ce psaume, David ne sait pas si Dieu va le délivrer. Il est dans l'attente. Et il n'y a aucune promesse de dire que si l'on est suffisamment confiant, Dieu va nous délivrer. Parce que parfois nos souffrances durent et on ne voit pas le bout du tunnel. Mais on peut toujours espérer en Dieu. On peut toujours se confier dans le caractère de Dieu qui ne change pas. Je vous parlais de Johnny Erickson en introduction de cette prédication qui est tétraplégique depuis l'âge de ses 17 ans. Et c'est vraiment frappant de voir la réaction qu'elle a par rapport à ses souffrances. Et j'aimerais donner quelques citations d'elle. Elle raconte que dès les premiers mois de cette nouvelle vie, où elle a appris à vivre sans pouvoir utiliser ses bras et ses jambes, c'est juste terrible à cet âge-là d'avoir une transition comme celle-là. Elle raconte qu'elle criait à Dieu sans arrêt pour la délivrance. Et elle a écrit ceci alors qu'elle avait essayé de poursuivre la guérison en vain et qu'elle était dans le désespoir. Elle écrit ceci. « J'ai appris que le cœur du plan du Christ est de nous sauver du péché. Nos douleurs physiques et nos relations brisées ne sont pas son objectif ultime. Il se soucie profondément de ces choses. Mais ce sont les symptômes du problème principal de ce monde déchu. Le but de Dieu n'est pas de nous rendre confortables. Il veut nous apprendre à haïr nos transgressions, tout en cultivant notre amour pour lui. Une réponse négative à ma demande de guérison physique miraculeuse a signifié un péché purgé, un amour pour les perdus, une compassion accrue, une espérance renforcée, un appétit pour la grâce, une foi accrue, une heureuse aspiration au ciel, un désir de servir, un plaisir dans la prière et une faim pour sa parole. Ô béni soit le sévère maître d'école qu'est mon fauteuil roulant. La grâce de Dieu adoucit les angles des douleurs passées, aidant à mettre en évidence l'éternel. Ce qu'il vous reste, c'est une paix profonde, une joie inébranlable et une foi dure comme du fer. » Quel exemple, quel bon exemple de quelqu'un qui, comme David, a su garder espoir en Dieu, même si tout semblait être sombre autour d'elle. L'espérance en Dieu. Et enfin, la quatrième leçon d'un homme qui passe par la souffrance dans ce psaume 39, « Examinons-nous devant Dieu. » Examinons-nous devant Dieu. La souffrance, c'est une occasion à saisir pour nous examiner devant Dieu et pour confesser nos péchés. C'est assez frappant, mais dans ces versets, David dit clairement que sa souffrance vient au moins en partie de Dieu lui-même. Regardez avec moi les versets 10 à 12. David dit « Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi, en parlant à Dieu, qui agis. Écarte de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de sa faute, tu ronges comme la teigne ce qu'il a de plus désirable. Oui, tout homme est un souffle. » David prend part à la discipline de Dieu, à la correction de Dieu. Il reconnaît d'ailleurs que c'est légitime et il reconnaît lui-même ses fautes. Il ne cherche pas à se justifier, mais il reconnaît sa culpabilité. C'est ce qu'il fait au verset 9. « Délivre-moi de tous mes crimes. Ne m'expose pas au déshonneur de la part de l'insensé. » Ou dans le psaume 38, au verset 5, il dit ceci. « Mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un pesant fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. » Donc il reconnaît ses fautes. Il est châtié par Dieu en raison de ses fautes. C'est vrai que quand on entend parler de Dieu qui châtie ses enfants, de Dieu qui discipline, de Dieu qui corrige, on peut être choqué, on peut trouver ça inapproprié pour parler de Dieu. Mais ici, il n'est pas question de la violence d'un père envers son enfant ou de Dieu qui serait comme un père fouettard, sévère, plein de cruauté, ni même d'un père humain injuste qui ne ferait que corriger ses enfants. Non, quand on parle de la discipline de Dieu, il est plutôt question de l'amour d'un bon Père céleste qui veut le meilleur pour ses enfants, qui veut conduire ses enfants dans la bonne direction, dans le chemin de la justice, et qui doit donc les corriger. C'est ce que nous montre Hébreux 12 en citant le livre des Proverbes. « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et frappe de verges tout fils qu'il agrée. » Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais plus tard elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est ce que vit David, et c'est ce que nous pouvons vivre également. Chaque épreuve que nous vivons n'est pas en dehors de la souveraineté de Dieu, et certaines d'entre elles font partie de la bonne discipline de Dieu envers nous, pour nous transformer. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le but même de la souffrance, de nous affiner, de nous transformer, de nous rendre plus purs, comme l'or que l'on passe dans le feu? Ça ne voudrait pas dire que chaque souffrance que l'on vit est nécessairement liée à un péché. Comme on l'a déjà dit dans ce psaume 39, on voit que la souffrance a de multiples origines. Il y a le péché, oui, mais pas que. David souffre aussi en raison des méchants. Et au psaume 38, on voit qu'il souffre en raison de la maladie, d'une maladie qui est sur lui. Et de manière plus générale, la souffrance vient du fait de vivre dans un monde déchu, dans un monde marqué par le péché. Ce n'est pas notre rôle de chercher à discerner l'origine de pourquoi nous souffrons. Mais en revanche, c'est notre rôle de prendre la souffrance comme une opportunité de réfléchir sur le caractère éphémère de la vie, comme on l'a vu, mais aussi pour nous examiner devant Dieu, pour confesser nos péchés à Dieu. C'est que lorsque l'on est arrêté dans notre quotidien, freiné par la souffrance, que l'on prend le temps d'évaluer notre vie, que l'on prend le temps de se remettre en question. C.S. Lewis, le fameux écrivain chrétien qui était athée, il a écrit ceci. « Nous pouvons réussir à ignorer le plaisir, mais la douleur exige que l'on s'occupe d'elle. Et elle insiste. Dieu nous chuchote dans nos plaisirs, il nous parle dans notre conscience, mais il crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. » Nous pouvons dire que cette crise mondiale sert comme un mégaphone, un haut-parleur géant pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Pour nous rappeler la seule statistique vraiment fiable qu'on peut avancer, que 100% d'entre nous, nous allons mourir et nous allons faire face à Dieu. Et donc pour nous rappeler que nous avons besoin de saisir cette occasion comme une occasion de nous examiner devant Dieu. Et je me permets donc de m'adresser à vous si vous fréquentez cette église ou ces cultes en live depuis peu de temps, ou si vous vous intéressez à la foi chrétienne, ou si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo YouTube, alors bravo à vous d'avoir persévéré jusque-là, mais j'aimerais m'adresser à vous en vous disant qu'il n'est pas insensé de s'intéresser à Dieu. Au contraire, c'est la chose la plus sensée que l'on puisse faire à la lumière de ce que l'on a vu dans ce psaume. La vie humaine ne tient pas à grand-chose, c'est une vapeur, et après notre vie humaine, nous allons devoir rendre des comptes au Dieu qui nous a créés, qui a été là depuis le début de notre existence, pour lui rendre des comptes, savoir ce que l'on a fait de notre vie. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à ce Dieu-là? Je vous encourage à placer votre confiance en Jésus, qui est mort pour que nous puissions vivre, qui a connu la souffrance, qui a connu le jugement de la part de Dieu, à notre place. Je vous encourage à vous intéresser à ce que la foi chrétienne offre, pour voir que dans la foi chrétienne, il est question de vérité qui vous concerne. Il n'y a rien de plus important. Ne fermez pas vos oreilles au mégaphone de Dieu pour réveiller un monde qui est sourd. Et pour conclure, pour nous chrétiens, réalisons que nous avons besoin et que nous pouvons être honnêtes devant Dieu. Il voit tout de nous. Nous pouvons être honnêtes au milieu de nos perplexités et parler librement à Dieu comme David. Le psaume conclut avec les versets 13 et 14. Regardez ça avec moi si vous avez une Bible sous les yeux. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas sourd à mes pleurs, car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et mon visage s'éclairera, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Le verset 14 est surprenant parce qu'on penserait justement que la présence de Dieu apporterait la joie, un visage éclairé. Mais là, David, il dit à Dieu, éloigne-toi de moi. Et tout ira bien. C'est surprenant. Parce qu'il est question ici de la présence de Dieu comme d'un juge, de son châtiment qui s'abat sur David. Et David reconnaît qu'il est trop fragile pour tenir face à Dieu, qu'il ne fait pas le poids. Donc il n'y a pas d'arrogance dans cette prière. Au contraire, elle est pleine d'espoir, elle est pleine de confiance en Dieu, elle est pleine justement d'un désir de retrouver la présence joyeuse de Dieu. Et ça nous montre que nous pouvons être honnêtes, que nous pouvons parler à Dieu au milieu de nos souffrances, peu importe ce que vous traversez en ce moment. C'est une bonne chose et c'est juste et approprié de le faire. Dans la bonne attitude, en reconnaissant notre fragilité devant Dieu, en s'examinant devant Dieu et en restant confiant en Dieu. Toujours confiant en Dieu, quoi qu'il arrive. Et c'est ce que nous invite à faire le chant qu'on aura dans un instant. Je vais juste lire une des strophes de ce chant avant de repasser la parole à Steve, où il est dit ceci. « Repose-toi, jamais Dieu ne t'oublie. Et l'heure est proche où Jésus va venir. Tu comprendras les peines de ta vie et tu verras qu'il voulait te bénir. Oh, que ta foi honore et glorifie Dieu qui t'aima pour l'immense avenir. » Prions ensemble, chers amis, pour terminer. Notre Dieu, merci parce qu'il y a un jour où nous comprendrons les peines, les souffrances de notre vie et nous verrons que tu voulais nous bénir. On te remercie pour ce psaume 39, pour ces bonnes réactions face à la souffrance. Et on te prie que tu nous aides à savoir bien souffrir dans ce monde pour ta gloire, en gardant une attitude qui t'honore, qui te glorifie et qui est même un témoignage pour ce monde de l'espérance que l'on a trouvée en Christ. On te remercie pour la croix où nos péchés ont été pardonnés, où le problème le plus important de l'humanité a été résolu. Et on te prie que beaucoup d'autres puissent saisir cette situation comme une occasion de se mettre en règle avec toi avant qu'il soit trop tard. Et on prie ceci dans le nom de Jésus. Amen.